en dépit de la somme d'informations qu'on avait déjà, ça n'a pas empêché qu'on maintienne l'utilisation de ce produit dans la culture de la banane aux Antilles, mais vraiment parce qu'on a fait passer l'argument économique au-dessus de la question sanitaire.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est aujourd'hui le fruit le plus consommé au monde. Originaire d'Asie du Sud-Est, il a traversé les frontières. Avec son enveloppe naturelle assez robuste pour être transportée partout, sa chair sucrée, sa texture tantôt ferme, tantôt moelleuse, la banane est un vrai bijou de la nature. Bouillie, frite, grillée, étuvée, elle peut également se cuisiner comme un légume. Dans un coin du globe en particulier, en Guadeloupe et en Martinique, c'est un véritable trésor, le symbole d'un commerce florissant. La banane est le fleuron de l'économie des Antilles françaises. Là-bas, une personne active sur 20 travaille dans ce secteur. Pour l'auteur Dominique Anatole Alfried, la conscience des Martiniquais et des Martiniquaises est, écrit-il, imbibé d'odeurs, de saveurs, d'histoires de bananes. Ce fruit est le symbole de la révolte, de l'exploitation de l'homme par l'homme, du mépris. C'est le symbole de la non-réussite sociale pour certains, alors que l'énergie dépensée dans les champs n'était jamais vaine, poursuit-il. Comme sa cousine la canne à sucre, la banane suscite aux Antilles des souvenirs et des émotions ambivalentes. Dominique Anatole Alfried écrit encore « La banane et la canne à sucre sont des sœurs siamoises. Elles sont indissociables. Manger un plat de banane verte avec de la morue et une salade de concombre, sans boire avec un fée, un punch, est un sacrilège pour certains anciens. D'ailleurs rejeté par une certaine classe sociale, le plat avec la morue et la salade de concombre est devenu pourtant l'emblème culinaire de la Martinique. Être invité à manger ce plat chez des amis est un moment privilégié, peut-on lire sous la plume de l'auteur martiniquais. Mais remonter l'histoire de la banane des Antilles, c'est aussi immanquablement croiser le chemin moins heureux du chlordécone. Le chlordécone, c'est ce pesticide toxique qui a été massivement utilisé entre 1972 et 1993 afin de lutter contre le charançon, un insecte qui s'attaquait aux cultures de bananes. 20 années durant lesquelles les terres, les eaux, mais aussi les corps ont été contaminés. 20 années durant lesquelles on a fait passer les rendements de bananes avant le respect d'un écosystème et la santé des hommes et des femmes qui y vivent. Le scandale environnemental se double donc du scandale sanitaire. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Que savait-on de la toxicité de ce produit à l'époque de son utilisation? Quel est le rôle de l'État français dans cette affaire? Quelle justice espérer désormais? Comme le fait remarquer la journaliste du Monde Faustine Vincent dans un article consacré au chlordécone en 2018, ce n'est pas la première fois que la presse parle de ce scandale. Les médias locaux l'évoquent d'ailleurs souvent. Mais le dossier semble chaque fois curieusement retomber dans l'oubli en métropole, écrit-elle. Il faut dire que près de 7000 km séparent la métropole des Antilles françaises. Mettre la poussière sous le tapis quand celui-ci est à 8 heures d'avion, c'est plus facile. Mais pour Jessica Oublié, il est temps que cela change. Née d'un père martiniquais et d'une mère guadeloupéenne, l'autrice de bande dessinée a choisi le format de l'illustration pour rendre compte au mieux du scandale du chlordécone. Hyper documenté, Tropique Toxique est un ouvrage de 200 pages qui mêle photographies, témoignages, explications pédago et contextualisation historique pour comprendre les ravages de ce pesticide aux Antilles. Au micro de Bouffon, j'ai commencé par demander à l'autrice qui a sorti sa BD en octobre dernier de nous expliquer plus précisément ce qu'est le chlordécone.
Le chlordécone, c'est une molécule qui a été conçue aux États-Unis au début des années 50 et qui a été utilisée principalement dans la culture de la banane, dans les pays producteurs de bananes, Panama, Costa Rica, Équateur, Jamaïque, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et c'est notamment parce qu'il a été utilisé au Cameroun et en Côte d'Ivoire dès les années 60 et qu'il a démontré son efficacité agronomique qu'il a été ensuite introduit à partir de 1972 aux Antilles, où il a été utilisé ensuite, épandu à la main par les ouvriers agricoles de la banane jusqu'en 1993. C'est une molécule qui appartient à la famille des organochlorés. Donc, en gros, ça veut dire que c'est une molécule qui est peu soluble dans l'eau et qu'elle se fixe sur la matière organique. Et donc, elle a été utilisée, cette molécule, pendant près de 20 ans aux Antilles. Et ces 20 années d'utilisation nous laissent une marque quasiment indélébile de son passage sur nos territoires, puisqu'on estime à 70 voire 700 ans la durée de la pollution de nos différents écosystèmes si rien n'est fait pour l'endiguer.
Donc plusieurs générations en fait de vie qui vont être impactées par cet insecticide donc qui a été utilisé pendant 20 ans, tu l'as dit, donc entre 1972 et 1993. Oui. Pourquoi en fait cet insecticide, pourquoi l'a-t-on aussi massivement utilisé? Est-ce qu'on a tardé à découvrir les méfaits de son utilisation, ou est-ce que ça a été quelque chose de caché au grand public?
En fait, on l'a utilisé pour lutter contre le charançon du bananier, qui était l'ennemi, qui était jugé comme étant l'ennemi des cultures, de la culture de la banane. C'est le charançon noir du bananier, c'est une espèce de petit hanneton qui mange le contenu du tronc du bananier, et donc qui le fait tomber. Et très tôt, la banane comme la canne à sucre ont été choisies comme deux monocultures, donc des cultures d'exportation à destination principalement du marché français métropolitain. Et donc, ces deux monocultures étaient considérées comme les vecteurs principaux du développement économique de nos territoires. Donc, pour sécuriser la production, le rendement donc de cette banane, il a fallu utiliser un produit qui permette d'enrayer le niveau d'infestation des bananeraies par ce charançon. Alors, on l'a utilisé dès 1972, mais les premiers rapports qui parlent de la trace, qui attestent la présence de résidus de chlordécone dans les écosystèmes des Antilles, dans les sols et dans l'eau, datent de 1977, puis de 1980. Pourquoi on a continué à l'utiliser? Parce qu'on a fermé les yeux sur ce qui semblait être nécessaire pour préserver l'économie, le développement de ces territoires. Est-ce qu'on savait tout ce qu'on sait aujourd'hui sur son impact sur la santé? Disons qu'à partir de en 1975, il y a ce qu'on a appelé l'incident de Hopewell aux États-Unis, en Virginie. Il y avait cette entreprise Life Science Products qui elle produisait donc du képone. Le képone, autre appellation commerciale du chlordécone. Et en fait, les ouvriers de cette entreprise ont été fortement intoxiqués par la molécule donc qu'ils produisaient. On a retrouvé donc cette molécule dans la rivière James, dans la baie de Chesapeake attenante à l'entreprise, parce que l'entreprise y rejetait le reste de ce qu'elle produisait. Et donc, la molécule a vraiment contaminé, là, pour le coup, une bonne partie de la faune halieutique. Et d'ailleurs, la rivière James a été fermée à la pêche pendant 13 ans. Des ouvriers ont été très malades et ont été hospitalisés pendant plusieurs mois, voire pendant quelques années pour certains d'entre eux. Donc, à partir de ce moment-là, on savait que c'était une molécule neurotoxique, phytotoxique, reprotoxique. D'ailleurs, ces informations toxicologiques, on les connaissait déjà depuis la création de la molécule au début des années 50, parce qu'on avait fait des tests, les Américains avaient fait des tests en laboratoire sur des rongeurs. En dépit de la somme d'informations qu'on avait déjà, ça n'a pas empêché qu'on maintienne l'utilisation de ce produit dans la culture de la banane aux Antilles, mais vraiment parce qu'on a fait passer l'argument économique au-dessus de la question sanitaire.
Donc, on peut dire que longtemps, les autorités ont choisi de fermer les yeux sur les dangers sanitaires de ce pesticide. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ?
Depuis 2008, donc il y a un premier plan chlordécone qui est cet outil de pilotage qui a été mis en place par l'État pour pouvoir gérer la pollution, pour pouvoir comprendre les mécanismes de fonctionnement, pour savoir comment elle se retrouve dans l'assiette, comment la molécule va se retrouver dans l'assiette et puis comment ensuite elle va se retrouver dans les corps des personnes qui vivent ici. Et donc, à partir de là, il y a de nombreuses études qui ont été faites, notamment une sur les hommes qui s'appelle Caruprostate, qui a permis de déterminer qu'à partir de 1,01 microgramme de chlordécone par litre de sang, l'homme augmente son risque de voir survenir un cancer de la prostate. Et une deuxième étude, Timoun, toujours pilotée par le CHU de Guadeloupe en association avec l'INSERM Rennes, a déterminé que la molécule donc, était transmise par la mère au fœtus et qu'elle pouvait être cause de retard de développement cognitif et moteur. Et donc, c'est ce que les chercheurs essayent aujourd'hui d'évaluer. Quel danger ça peut représenter pour nous que d'ingérer toute une vie du chlordécone à faible dose au quotidien.
Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est aussi la question de la responsabilité de l'État français, j'imagine, par rapport à ce scandale. Le chlordécone, donc c'est un mot qu'on voit de temps en temps et peut-être de plus en plus apparaître dans la presse, mais est-ce qu'on peut imaginer que le scandale du chlordécone va ressembler au scandale de l'amiante ou encore au scandale plus récent du glyphosate ?
Il est clair... Et il a été clairement reconnu, établi que l'État est l'un des premiers acteurs responsables dans ce qui s'avère être un scandale environnemental aujourd'hui et un scandale sanitaire. Mais par la voix même du président Emmanuel Macron en février 2019, lors du grand débat national, il y a eu une séquence dédiée aux parlementaires ultramarins. Il a réfuté le caractère, le lien de causalité entre l'exposition à la molécule et la survenue du cancer de la prostate. Donc, pour moi, il y a quand même une difficulté de la parole publique à reconnaître l'ensemble des dimensions du problème et à savoir ses incidences sur la santé. En même temps, toutes les incidences ne sont pas connues de nous aujourd'hui. Mais des recherches et des recherches sérieuses qui n'ont jamais été contestées, qui sont le fait d'organismes de recherche français, produits par d'éminents professeurs français, établissent que 10% des cancers de la prostate annuelle, soit 50 en Martinique et 50 en Guadeloupe, sont imputables au chlordécone. Et que s'il n'y avait donc pas eu cette molécule, ce polluant environnemental, ce serait donc 100 cancers de moins chaque année pour notre territoire. Donc, il y a aujourd'hui une difficulté à reconnaître ça, dans la mesure où, encore une fois, si on reconnaissait l'entièreté de la responsabilité de l'État, il s'agirait maintenant de mettre en place un fonds d'indemnisation conséquent qui prendrait en charge tout le monde, comme on l'a vu faire pour l'amiante. Et on sait à quel point c'est onéreux que d'avoir à mettre en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. Donc, est-ce qu'on se dirige vers un scandale comme celui-ci ? C'est probable. Maintenant, la mécanique pour établir la vérité et notamment le lien de causalité est extrêmement difficile. L'amiante, entre guillemets, avait l'avantage d'avoir une maladie signature, qui est donc le cancer du mésothéliome. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien, donc il interagit avec le système hormonal, mais il n'a pas vraiment de maladie signature. Peut-être donc le cancer de la prostate, mais il en a peut-être d'autres, parce qu'on s'est très peu intéressé finalement à la santé des femmes, à savoir comment la molécule interagissait avec le système hormonal des femmes. Ça n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à rechercher un éventuel lien avec ce que les médecins généralistes ont vu augmenter dans leur patientèle, à savoir des cas de plus en plus importants d'endométriose sévère. J'ai envie de dire que sur le plan sanitaire, toute la vérité des savoirs épidémiologiques reste encore à construire. Et donc, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on continue de danser sur deux jambes différentes au niveau politique, parce qu'il y a encore des savoirs à établir.
Mmh. Oui. Et donc, c'est hyper intéressant de souligner également donc que ces recherches sur la santé des femmes ont tardé à arriver, puisque finalement dans la gestion de ces scandales, il y a aussi un sexisme dans la priorité des champs de recherche.
Oui, alors en fait, le problème de l'endométriose, c'est que déjà d'une, c'est un nom de maladie qui est extrêmement récent. Avant, on disait aux femmes oui, tu as mal, donc mais prends sur toi. Les femmes de ta lignée avant toi ont eu mal elles aussi, donc sois une femme et tiens debout et surtout en silence. Après. Il n'y a pas que le chlordécone, en fait, qui se retrouve à l'état de polluant environnemental aux Antilles. Il y a tous ses prédécesseurs, j'ai envie de dire, le lindane, le HCH, qui étaient aussi d'autres molécules de la même famille des organochlorés qui ont été utilisées pour la même culture de la banane. Donc, est-ce que c'est plus le lindane? Est-ce que c'est plus le HCH? Est-ce que c'est plus une autre de ces molécules qui serait sujette à l'augmentation donc de ces cas? Ou pire encore, est-ce que c'est pas le combo de tout ça, donc qui générait ce qu'on appelle un effet cocktail et qui ensuite donc favoriserait donc la survenue de cette maladie? C'est quand même très difficile à dire. Les spécialistes de la santé environnementale ont toutes les difficultés du monde, à part certains cas très précis comme celui de l'amiante, à déterminer un lien de causalité entre une maladie et une molécule précise. Tout simplement parce qu'on est au quotidien immergé dans un bain de molécules et que en dehors de cette fameuse maladie signature, ou encore c'est ce qu'on a vu avec le médiator Irène Frachon. Mm-hmm. Donc l'exposition au médiator, donc toutes ces personnes qui mouraient d'une maladie particulière des poumons. Tout ça, c'est extrêmement difficile dans le cadre du chlordécone et de l'ensemble des autres molécules organochlorées auxquelles nous sommes exposés ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la recherche à faire. Le problème, c'est que la recherche, ça coûte cher. Et que, en tout cas, c'est ce que, à mon avis, au niveau du gouvernement, on doit se dire. Et que 800 000 personnes, même si ça représente la population de deux territoires, bah 800 000 personnes, c'est à l'échelle de la planète pas énorme. Et donc, en plus, comme c'est une molécule qui a été massivement utilisée dans plein d'endroits de la planète, il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent pour pouvoir faire ces recherches, en fait.
Dans ton roman graphique Tropique toxique, tu évoques aussi ces professions sacrifiées, donc ces agriculteurs qui sont victimes du chlordécone, tout en étant également montrés du doigt parce qu'ils ont été en quelque sorte les exécutants de cette pollution.
On les a décrits dans la presse comme des espèces de co-auteurs de la contamination générale de la population. Parce qu'en fait, la molécule a quitté les bananeraies pour ensuite aller dans les différents compartiments du sol, la nappe phréatique, puis les rivières et les mers, et qu'elle se retrouve dans nos assiettes parce qu'elle a imprégné différents aliments, donc principalement les légumes racines, les cucurbitacées, et puis des aliments qui poussent à la surface du sol, mais aussi les poissons côtiers et puis tout ce qui nage dans les rivières.
Oui.
Et donc, ces acteurs, bien malgré eux, ont contaminé la population, mais ils sont avant tout, pour moi, des dommages collatéraux de la production bananière, de l'industrie productiviste, d'une manière aussi de penser le développement économique dans nos territoires. Donc, ils sont pour moi pas du tout responsables de la situation. Et c'est vrai que quand je discutais avec certains d'entre eux, mais globalement, c'est ce qui ressortait lors de chacun de mes entretiens, c'était le sentiment d'avoir été une victime, et une victime qui passe aujourd'hui pour... qui est quasiment invisible, parce qu'elle est avant tout celle qui a délivré à la population, et sans le savoir, des aliments non propres à la consommation. Donc j'avais envie de parler de ça aussi, de ces personnes qui n'ont pas de week-end, pas de vacances, qui se lèvent tous les jours aux aurores pour pouvoir cultiver, élever, produire, et qui ont un amour réellement pour la terre, pour la mer, pour ce qu'ils produisent, et pour le contact aussi que ça leur permet d'avoir avec la population.
Associations écolo, scientifiques, chercheurs, militants et militantes, agricultrices et agriculteurs, Ton enquête, elle montre aussi à quel point les tentatives de donner l'alerte ont été nombreuses à différents niveaux.
La BD, j'avais vraiment envie qu'elle rende hommage à toutes ces personnes qui, depuis des années, se battent à leur échelle, à leur niveau, pour faire en sorte qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui, une reconnaissance de la responsabilité de l'État. Et même si cette reconnaissance, elle est reconnue en pointillé par Emmanuel Macron, hein, parce qu'il dit en Martinique, en septembre 2018, oui, c'est un scandale environnemental, il ne reconnaît pas le scandale sanitaire, il y a quand même des choses qui évoluent. Est-ce que c'est suffisant maintenant ? Non, pas complètement, puisque depuis un an maintenant, une commission d'enquête parlementaire s'est réunie et a déterminé l'entière responsabilité de l'État, parce que qui de l'État, à l'époque, a accordé une autorisation provisoire de vente pour un produit dont la toxicité était déjà parfaitement connue. Bah, c'est le ministère de l'Agriculture et c'est même Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture en 1972, qui accorde cette autorisation, qui elle ensuite donc sera transformée en homologation en 1980 et qui finalement ensuite sera retirée du marché à partir de 1990 parce qu'on reconnaîtra enfin donc c'est une molécule dangereuse, toxique, qui a des effets délétères sur l'environnement et la santé. Les choses elles évoluent. Mais on va dire à plusieurs vitesses. Il y a le temps de l'État, qui est un temps extrêmement long, mais comme pour l'ensemble des scandales sanitaires, je veux dire le sang contaminé, les enfants qui naissent avec sans pieds, sans bras, l'affaire Ramera, le registre des malformations à la naissance, pareil pour le Mediator, pareil pour l'amiante, ce sont des affaires extrêmement longues au niveau du traitement judiciaire, d'ailleurs qui relèvent toutes du pôle santé du tribunal de grande instance de Paris, qui est débordé par la gestion de ce que moi j'appelle des affaires qui est quasiment ingérable parce que notre cadre administratif et même notre appareil de justice, il n'a pas toujours les clés pour traiter ces affaires. Aujourd'hui, et on le voit, et c'est une notion qui commence à être, enfin qui est depuis quelques années fortement débattue, la reconnaissance du crime d'écocide, je pense que son installation dans la loi permettrait en effet de mieux savoir gérer ce type de problème, mais pas que en aval, c'est-à-dire au plan des conséquences, mais en amont, pour qu'on soit aussi dans la gestion prévisionnelle de la catastrophe.
Oui. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que la banane est un produit vraiment qui fait partie du fleuron économique des Antilles, et que en tirant ce fil, finalement, on retombe sur ce scandale environnemental, c'est ce scandale qui est également sanitaire, ces enjeux politiques, économiques, ça interroge aussi la place des béquets, les descendants des premiers colons européens. J'imagine, oui. dans tout ce qu'il y a à dire sur la relation donc de ces béquets avec le pouvoir politique central. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui contribue à rendre assez épineux cette question du chlordécone?
Ah ben oui, tout à fait. D'une part parce que les béquets donc sont des descendants de colons et que ils détiennent leur capital économique de la période esclavagiste et de la colonisation et que aujourd'hui alors qu'ils sont en infériorité numérique au plan démographique, ils centralisent le principal capital économique de nos territoires. Et que, globalement, après donc qu'ils aient été, en effet, ce qu'on a appelé les grands planteurs, ils sont à la tête, donc, notamment, des secteurs de l'import-export. C'est eux qui gèrent les grandes surfaces, les grands magasins, le port, le commerce avec la France métropolitaine. Donc il y a vraiment quelque chose de, à un moment, du sentiment de la double peine, c'est-à-dire que c'est les béquets qui géraient la banane et qui ont notamment introduit par la voie de la famille Ayotte, donc l'entreprise, les établissements de la Garrigue, donc qui ont introduit le chlordécone ici, et donc qui ont bénéficié de l'homologation du produit, et donc qui s'est ensuite appelé le Curlone, donc en 80, pour l'utiliser donc encore 12 ans après. On nous dit, les recommandations sanitaires nous disent, quand vous ne connaissez pas l'origine d'un produit, du fait de la situation de pollution, finalement, il vaut mieux aller en grande et moyenne surface, parce que là, les produits qui sont vendus respectent la teneur maximale de chlordécone autorisé, donc ce qu'on appelle la limite maximale de résidus. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'y a pas de chlordécone dans la nourriture qu'on va trouver en magasin, mais ça veut dire que les seuils fixés par l'Europe sont respectés. Alors que lorsqu'on achète en bord de route du poisson, des légumes, et ben là on ne sait pas d'où ça vient, sur quelle terre ça a été cultivé. Est-ce que la terre est chlordéconée? Est-ce qu'elle ne l'était pas? Et donc, cela peut présenter un risque pour la santé humaine. Sauf que faire ses courses comme ça, un, ça relève aussi d'une part de culture. Deux, dans un territoire sinistré économiquement où le taux de minima sociaux est élevé par rapport à la France métropolitaine, aller en magasin, et on le sait, on a ce qu'on appelle ici la vie chère, ce n'est pas toute la population qui a les moyens d'aller faire ses courses dans les magasins. Et les personnes qui tiennent ces magasins sont, encore une fois, les béquilles. Donc, il y a le sentiment de « vous avez contaminé notre terre » et maintenant, en plus, que cette pollution est une atteinte à notre culture, à nos manières de vivre, à nos manières d'être en relation avec la terre-mère, nous devons maintenant acheter des produits dans les magasins, et dans les magasins où les prix sont extrêmement chers.
Après notre enregistrement, on a parlé avec Jessica Oublié du pouvoir du roman graphique pour propulser lecteurs et lectrices dans des pans de l'histoire pas toujours simples à comprendre. C'est, il me semble, la force de ce format, généreux et grand public. Car là où offrir un essai à propos d'un sujet complexe ne nous vient pas toujours à l'esprit, offrir un roman graphique peut sembler plus invitant. C'est comme ça que Jessica Oublié a conçu Tropic Toxique, comme un roman graphique qui peut voyager entre les étages d'une maison, offert par un frère, prêté à une mère, feuilleté par un père, laissé sur la table basse par une sœur. Dans une même dynamique de vulgarisation sociologique, Jessica Oublié a également publié en 2017 « Pays à nous », qui restitue une enquête sur le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, cette entité française qui a régi le déplacement de près de 160 000 ultramarins vers la métropole entre 1963 et 1981. Pour soutenir la recherche et la dépollution du chlordécone, rendez-vous en description de l'épisode pour suivre le lien de la cagnotte. Et pour poursuivre la réflexion sur le sujet, nous vous recommandons « Tu crois que la Terre est chose morte ?», un film de la cinéaste Florence Lazare qui a documenté la résistance de paysans martiniquais contre la monoculture de la banane. Merci à Jessica Oublié de nous avoir donné de son temps pour parler de chlordécone. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et les coups de main de Charline Yao. Montage et mixage par Thibaut Delage, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.